Quand on interagit avec d'autres personnes, on interagit avec eux à trois niveaux différents. Le niveau du bas de cette pyramide est le niveau universel. À ce niveau-là, on est tous les mêmes. On est tous des êtres humains. On a tous besoin de manger, de boire, de respirer pour survivre. On aime tous nos enfants et nos parents. Ça, c'est le niveau auquel plusieurs formes d'art fonctionnent. Par exemple, la danse, la musique, la peinture, la sculpture ou les mimes. On peut les apprécier partout dans le monde. Le niveau supérieur de cette pyramide, c'est le niveau individuel. Là, à ce niveau-là, on est tous différents. On est tous uniques. Il n'y a jamais eu un autre être humain comme vous sur Terre et il n'y en aura jamais un autre comme vous. La culture est entre les deux. La culture, c'est quelque chose qu'on partage avec des millions de personnes, mais pas avec tous les êtres humains. Alors, je vais prendre la nourriture comme exemple. Au niveau universel, on a tous besoin de manger pour survivre. Au niveau individuel, on a tous nos préférences. Certains d'entre nous ont des allergies ou des restrictions alimentaires. Au niveau culturel, on va trouver la nourriture chinoise, la nourriture italienne, la nourriture française, la nourriture canadienne et bien d'autres. C'est aussi le niveau où on va trouver les couverts qu'un restaurant vous donne pour manger. Les restaurants canadiens vont souvent vous donner un couteau et une fourchette. Les restaurants chinois vous donnent des baguettes. Les restaurants philippins vous donnent une cuillère et une fourchette. Les restaurants éthiopiens ou tchadiens ne vous donnent rien. Vous mangez avec vos doigts. C'est ni mieux ni moins bien, c'est comme ça, c'est la culture. Quand on se met en affaire au Canada, on interagit souvent avec des gens venant de partout dans le monde. Et on finit souvent par avoir besoin de faire la différence entre les trois niveaux. Par exemple, voilà une situation bien particulière où on a besoin de faire la différence entre culture et personnalité. Ça donne à peu près ça. Vous avez embauché quelqu'un qui appartient à un groupe culturel auquel personne n'est familier. C'est la première personne venant d'Azerbaïdjan que vous rencontrez. Vous savez où est l'Azerbaïdjan, mais vous ne connaissez pas sa culture. Alors disons que ce nouvel employé azerbaïdjanais se comporte d'une manière qui énerve le reste de l'équipe. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, la réponse dans la majeure partie des entreprises canadiennes va dépendre de est-ce qu'on attribue ce comportement désagréable à sa personnalité ou à sa culture? Si on l'attribue à sa personnalité, la première réaction, ça va être d'essayer de coacher cette personne. On ne met pas beaucoup d'efforts dans ce programme de développement individuel parce que tout changement au niveau de la personnalité doit venir de l'intérieur, de l'individu lui-même. Personne ne peut changer la personnalité de quelqu'un d'autre, on peut seulement essayer de changer sa propre personnalité. Et pour y arriver, il va falloir un effort soutenu dans le temps, sinon on va vite retomber à l'état initial. Alors, si le programme de développement individuel n'aboutit pas à un changement suffisant, l'étape suivante dans la plupart des entreprises canadiennes sera d'essayer de transférer cet employé azerbaïdjanais dans une autre équipe. Alors, bien sûr, ça suppose deux choses. Un, que l'entreprise soit assez grande pour qu'il y ait une autre équipe où on puisse transférer cette personne. Et deux, que l'économie soit assez bonne pour que ça vaille le coup d'essayer. Si ce premier transfert ne donne pas les résultats escomptés, on va essayer un deuxième transfert. Et si ça ne marche pas encore troisième fois, alors là, on va licencier cet employé parce qu'on ne peut pas changer la personnalité de quelqu'un. Et puis parce qu'au Canada, three strikes, you're out. On a essayé trois fois, c'est fini. La culture n'est pas innée, la culture est acquise. Il est donc beaucoup plus facile pour les gens de modifier un comportement qui vient de leur culture qu'un comportement qui vient de leur personnalité. La plupart des immigrants qui s'installent au Canada s'aperçoivent très vite qu'ils vont devoir changer certains comportements pour pouvoir s'intégrer dans la société canadienne. Par exemple, en tant que Français, j'ai dû arrêter de faire des bises à mes collègues féminines quand je suis arrivé en Amérique du Nord. Alors, si on va essayer d'aider quelqu'un à changer un comportement qui vient de sa culture, il est aussi préférable d'aborder la question sous un autre angle. Dans ce cas, on peut discuter des différences entre les cultures et aider les gens à se rendre compte que l'impact qu'ils ont sur les gens autour d'eux n'est pas celui qu'ils voudraient avoir. On a aussi souvent besoin de faire la différence entre culture et humanité. En effet, la grande majorité de la population mondiale, probablement 99%, grandit dans un environnement où tous les gens autour d'eux appartiennent à la même culture qu'eux. À cause de cette situation, beaucoup de gens confondent culture et humanité. Ils ont toujours vu les gens autour d'eux se comporter de la même manière dans une situation particulière, donc ils extrapolent et pensent que l'ensemble de la population mondiale va se comporter de la même manière dans cette situation. Prenons un exemple concret. J'ai grandi en France. Quand j'étais enfant, tous les gens que je connaissais mangeaient leur repas du soir à 20 h. J'en ai donc conclu que le monde entier mange à 20 h. Ah, c'est logique en tant qu'enfant. Quand je suis devenu adolescent, je me suis mis à voyager en Europe et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Les Scandinaves ont tendance à manger vers 18 h, alors que les Espagnols mangent plutôt vers 22 h, 23 h. En voyageant en Europe, je me suis donc rendu compte de deux choses. D'abord, les heures de repas dépendent de l'endroit où vous êtes, et ensuite, il va falloir que je m'adapte si je veux manger. Ça, c'est une motivation très forte dans mon cas. Mais je pensais que toutes les cultures avaient une heure de repas jusqu'en 2015. Cette année-là, j'ai commencé à animer des ateliers en partenariat avec un formateur autochtone. Il s'appelle Winston McLean. Winston écrit, il a grandi sur une réserve dans le nord de la Saskatchewan. Winston m'a dit que les gens de sa réserve ne mangent pas ensemble. Ils ont l'habitude de manger quand ils ont faim. La nourriture chez eux est principalement constituée de ragoûts qui mijotent en permanence dans la cuisine. Si vous avez faim, vous allez vous servir, vous mangez et vous passez à autre chose. Winston m'a dit que quand il est allé à Saskatoon pour faire ses études universitaires, il était très surpris de voir que tout le monde à Saskatoon avait faim en même temps. Quand il m'a dit ça, je me suis rendu compte que même le concept de repas est culturel. La condition humaine ne nous impose pas de vouloir manger ensemble. Mais il y a beaucoup de pays où les gens qui mangent seuls dans un restaurant sont perçus comme des losers. Alors, aujourd'hui, dans cette présentation, je vais mettre l'accent sur la culture. Au fur et à mesure, il est possible que vous vous rendiez compte que certains comportements que vous avez considérés comme universels sont en fait culturels. Je vais aussi examiner l'interaction entre culture et personnalité. C'est la raison pour laquelle vous allez m'entendre parler constamment du Canadien moyen, du Français moyen ou du Chinois moyen. C'est un concept abstrait qui n'existe pas. Vous n'interagirez jamais avec le Canadien moyen. Mais cette présentation n'aurait aucun sens si je disais que nous sommes tous différents. Si tout le monde est différent, personne n'est différent. Certains sont plus différents que d'autres et nous allons examiner ensemble les différences dues à la façon dont nous avons été élevés.